Chapitre 2. Valentin invoque le fantôme du passé. Minuit. J'ai été assez heureux de quitter Spotswold ce matin, très peu de temps après avoir terminé mes recherches dans la sacristie, et à 5 heures de l'après-midi, je me suis retrouvé à Ullerton. En revenant, j'ai sérieusement réfléchi à cette apparition inattendue de Paget sur le lieu principal de mes investigations, et plus je considère ce fait, plus je suis disposé à soupçonner les motifs qui ont pu conduire jusqu'ici mon patron. Je ne doute pas que je me tourmente de chimères, mais je ne connais que trop l'habileté machiavélique de l'homme, et tout ce qui vient de lui m'effraie. Mon premier soin en rentrant à l'hôtel fut de m'assurer si quelqu'un portant son nom ou répondant à la description que je fis de sa personne y était arrivé en mon absence. Je fus soulagé en apprenant qu'aucun étranger n'y était descendu depuis l'après-midi du jour précédent. Qui y était venu prendre un repas ? C'était une autre question, moins facile à résoudre. Dans la soirée, un grand nombre de personnes étaient entrées dans la salle à manger et en étaient sorties, et Paget pouvait fort bien être venu y boire son grog, lire les journaux et s'être informé de mes mouvements sans être remarqué. Comme disait l'immortel locataire du Théâtre du Globe, je ne sais pourquoi j'aurais des craintes, et pourtant je sens que j'en ai. Je trouvai une lettre de Georges contenant 20 livres en billets de banque, et la prenant avec moi, je m'en allai tout droit chez mon ami Jonas. Je le trouvai en train de prendre son thé. Je lui montrai l'argent, mais mon estime pour la probité du révérend gentleman n'étant pas illimitée, j'eus soin de ne pas le lui donner avant qu'il m'eût montré les lettres. Voyant que j'étais réellement en mesure de lui payer le prix convenu, il alla vers un bureau de forme ancienne dont il ouvrit un des tiroirs, un de ces tiroirs secrets qui n'échapperaient pas 3 minutes à l'expert le moins habile. De cette cachette, qu'il considérait certainement comme le chef-d'œuvre de l'art mécanique, il retira un paquet de lettres jaunies. Il s'en exhala une odeur de feuilles de rose desséchées et de lavande qui semblait comme un parfum du passé. Lorsque mon révérend ami eut déposé le paquet sur la table, à portée de ma main, je lui présentai les billets de banque. Ses vieux doigts gras s'en saisirent avidement et ses yeux brillèrent un moment d'un éclat extraordinaire. Après s'être assuré que c'était bien des engagements de la vieille douairière de Threadneedle Street, la Banque d'Angleterre, Goodge consentit obligeamment à signer une espèce de reçu que j'avais préparé pour la satisfaction de mon patron. « Vous aviez dit qu'il y avait 40 lettres, » fis-je observer, avant de commencer à compter les pièces en présence de Goodge. Le gentleman me regarda avec un étonnement qui, si je ne l'avais pas jugé le plus parfait des hypocrites, eût pu me sembler la simplicité même. « J'ai dit de 30 à 40, je n'ai jamais dit qu'il y en eût 40. » Nous nous observâmes. Sa physionomie me dit assez clairement qu'il cherchait à me tromper, et la mienne lui exprima d'une façon non moins claire qu'il n'avait pas une seule chance d'y réussir. S'il avait gardé quelques lettres dans le but de m'extorquer un peu plus d'argent, ou s'il en conservait avec l'idée qu'il pourrait les vendre à quelque autre, je ne sais, mais je ne doutais pas qu'il se jouait de moi. Je dénouai le ruban rouge qui entourait le paquet de lettres. Oui, il y avait là une preuve matérielle qui eût pu confondre mon ami devant une cour criminelle. Le ruban rouge portait la marque de l'endroit où il était resté lié pendant un demi-siècle, et un peu au-dessous de cette marque, une trace beaucoup plus récente. Quelques lettres avaient évidemment été extraites, et le paquet renoué. Que devais-je faire ? Refuser de prendre les lettres et demander que l'argent fût restitué ? Je connaissais assez bien mon ami pour savoir qu'il eût autant valu demander à l'océan de restituer une goutte d'eau qui y tombe. Les lettres pouvaient ou ne pouvaient pas rétablir quelque anneau de la chaîne que je cherchais à renouer. Les lettres soustraites pouvaient être plus ou moins importantes que celles qu'il me remettait. Dans tous les cas, la transaction était chanceuse et l'argent de Sheldon était aussi complètement hasardé que s'il eût été risqué aux courses. Cependant, avant de me retirer poliment, j'étais résolu à ne pas laisser à Goodge l'idée que j'étais sa dupe. « Vous m'avez annoncé qu'il y avait 40 lettres. Je me le rappelle parfaitement. Vous en avez retiré du paquet. Je sais fort bien que je n'ai pas contre vous d'action légale. Notre transaction s'est en fait verbalement et sans témoin. Il faut donc que je me contente de ce que vous me remettez. Mais je ne veux pas que vous vous berciez de l'idée d'avoir refait un clerc d'avocat. Vous n'êtes pas assez habile pour cela, Mr. Goodge. Bien que je vous croie assez coquin pour chercher à tromper tous les avocats inscrits au barreau. Jeune homme, faites attention. Comme je suis victime du manque de témoins à nos conventions, je puis aussi bien profiter de l'absence de témoins à notre entrevue. Vous êtes un fourbe et un trompeur, Mr. Goodge, et je vous souhaite le bonsoir. Sortez d'ici, jeune homme ! S'écria Jonas, furieux. Sa graisseuse figure devint rouge comme une betterave. Il étendit la main vers le tisonnier avec une intention plutôt défensive qu'offensive. « Sortez d'ici, jeune homme ! Je vous dis ce qu'Abimelech dit à Jedediah. Sortez d'ici !» Je ne suis pas certain que ces deux noms propres dont le révérend embellit en cette occasion son discours soient bien dans les Saintes Écritures. Mais je sais que les hommes de cette espèce sont toujours disposés à recourir aux Abimelech et aux Jedediah de la Bible, uniquement parce que ces noms ont quelque chose de ronflant qui attire les saltimbanques. Pendant que j'étais en train de me retirer, fort tranquillement, je n'avais aucune crainte du tisonnier clérical, mes yeux s'arrêtèrent sur une petite table couverte d'un tapis de différentes couleurs et sur lequel étaient posés quelques-uns de ces livres à reliure brune qui sont comme la preuve de l'humble piété de leur possesseur. Au beau milieu des livres apparaissait quelque chose d'extraordinaire, un gant d'homme en peau de chevreau de couleur pâle. Ce gant était petit et avait certainement été nettoyé, tel aurait pu être le gant d'un Brummel en exil, mais jamais la patte carrée d'un Goodge n'eût pu s'y glisser. Imaginez plutôt une collerette de point d'Alençon ou de Chesterfield au cou de John Wesley. Au même moment, une idée qui ne m'a pas quitté depuis me vint à l'esprit. Ce gant devait appartenir à mon respectable patron Horatio, et ce devait être pour lui que des lettres avaient été retirées du paquet. Il avait dû voir Jonas ce jour même et l'avait payé pour qu'il me trompât. Et alors, j'en revins à me poser de nouveau cette question. Est-il possible que le capitaine ait pu avoir aucune connaissance de mon affaire? Qui aurait pu trahir un secret qui n'est connu que de Georges et de moi? Et cependant, n'y a-t-il pas d'autres personnes que Paget qui portent des gants de chevreau nettoyés? Mais je savais que c'était l'habitude du capitaine d'oublier un de ses gants. Je passai toute ma soirée à lire les lettres de Mrs. Rebecca Haygarth. La pâleur de l'encre, la mauvaise écriture, les abréviations surannées et l'orthographe plus que douteuse rendaient cette tâche laborieuse. Néanmoins, je persistais bravement dans mon travail, et 2 heures sonnaient à la vieille horloge de la place du marché au moment où je commençais à lire la dernière lettre. À mesure que j'avançais dans cette affaire, je sentais croître jour par jour l'intérêt que j'y prenais, un intérêt sui generis, en dehors de toute préoccupation personnelle. Le plaisir que je prends au progrès de mes recherches est tout nouveau pour moi. Il est comme ce stimulant qui fait que le chasseur trouve si délicieux de franchir les fossés et les haies. J'aimerais certainement à gagner 3 000 livres, mais ne dussé-je tirer aucun profit de mon travail, je sens qu'au point où j'en suis, je continuerai quand même. J'ai besoin d'approfondir le mystère de cet enterrement nocturne à Dewsdale. J'ai besoin de connaître l'histoire de cette Mary Haygarth qui repose sous le grand-if à Spotswold et dont la mort est regrettée par une personne qui n'espère pas de consolation. Est-ce le lieu commun d'un veuf? Et ce pleureur inconnu s'est-il ensuite consolé avec une autre femme? Parviendrai-je jamais à pénétrer ce mystère du passé? Ma tâche me semble presque aussi impossible que si Georges m'eût chargé de découvrir les descendants de la 99e femme de Salomon. Les lettres ne me paraissent pas avoir une grande importance. Ce sont des épîtres prétentieuses et réservées qui traitent de matière spirituelle. Mrs. Rebecca semble avoir été trop préoccupée de la santé de son âme pour avoir eu beaucoup de temps à consacrer à quelque chose d'aussi peu intéressant que le corps des autres. Les lettres sont pleines de discours sur l'état de son propre esprit et empreintes de cet orgueil qui veut simuler l'humilité. Mrs. Rebecca se jette constamment des cendres sur la tête, mais elle prend soin néanmoins de faire comprendre à son ami le pasteur à quel point cette tête est une tête sacrée, une belle tête. J'ai mis de côté 3 lettres après avoir parcouru un nombre considérable de pages insensées. Ces 3 lettres mettent quelque peu en lumière le caractère de Matthew Haygarth, mais elles ne contiennent aucun document qui m'avance considérablement. J'ai copié littéralement ces lettres, en corrigeant seulement les fautes d'orthographe, si communes à une époque où le prétendant à la couronne d'Angleterre ne savait pas lui-même écrire correctement. La première porte la date du 30 août 1773, une semaine après le mariage de la dame avec notre ami Matthew Haygarth. Révérend ami et pasteur, lundi dernier, nous sommes arrivés à Londres, qui me paraît une grande et puissante ville, mais sans plus de vertu que l'ancienne Babylone. Mon mari, qui connaît cette ville beaucoup mieux que bien d'autres choses qu'il serait plus important pour lui de connaître, a trouvé bon de rire tout haut de la sainte répulsion que j'ai éprouvée à la vue de certains lieux. Nous avons été l'autre soir à un grand jardin, appelé par les uns « Jardin du printemps » et par d'autres « Vauxhall », comme ayant été autrefois la résidence de cet ennemi de l'Arche Sainte et infâme papiste, Vaux. Mais bien que je fusse reconnaissante à mon mari de ce qu'il avait voulu me procurer une distraction agréable, je n'ai pu voir sans honte des chrétiens se démener comme des enfants au milieu des vers de couleur et écouter avec ravissement une musique profane, alors que, avec beaucoup moins de dépenses de temps et de santé, ils auraient pu se réunir pour se perfectionner les uns les autres. Mon obligeant Matthew aurait voulu me conduire dans d'autres endroits du même genre, mais, inspiré comme je l'espère et le crois par la direction de votre esprit, j'ai pris sur moi de lui dire combien ces sortes de plaisirs me paraissent vains et futiles. Il a discuté vivement en m'affirmant que le roi et la reine, qui sont l'un et l'autre des exemples éclatants de perfection et de sainteté, fréquenter le Ranelagh et le Vauxhall. On les y voit très souvent, m'a-t-il dit, à la franche satisfaction de leurs sujets. Sur quoi je lui répondis que, quelle que soit mon estime pour un souverain et sa respectable épouse, je préférais achever mon existence hors de leur vue plutôt que de chercher à les rencontrer dans ces lieux consacrés aux souvenirs les plus frivoles. Il m'a écouté avec calme, mais sans paraître convaincu, car un moment après, il lui est arrivé de soupirer et de gémir en murmurant « Je suis allé autrefois au Vauxhall, peu de temps après l'ouverture de ce jardin. Oh, quel brillant éclairage! On eût dit des étoiles du soir descendues dans la sombre verdure des arbres. Comme la musique m'a paru délicieuse, je croyais entendre l'hymne des anges tombant sur terre comme la rosée du soir. Mais il y a plus de 20 ans, et tout est changé depuis. » Vous comprenez combien j'ai été scandalisé d'entendre cette folle rhapsodie. Je l'ai reproché à mon époux en termes clairs et précis. Il s'est alors calmé et m'a demandé pardon, mais pendant toute cette soirée, il a semblé préoccupé et a recommencé de temps à autre à gémir et à soupirer. En vérité, j'ai besoin avec lui d'une grande patience, car bien que par moments je le croie dans la vraie foi chrétienne, il en est d'autres où je crains que la griffe de Satan ne soit encore sur lui et que mes prières et mes conseils ne soient vains. Vous qui connaissez les désordres de son passé, si tant est que ce passé soit connu par d'autres que lui-même, qui a toujours gardé le silence sur sa vie en cette ville, bien qu'il soit le plus franc des hommes sur tout autre sujet, vous savez dans quelles sérieuses intentions j'ai accepté le fardeau du mariage, espérant par là obtenir la complète conversion de cette âme égarée. Vous savez à quel point mon défunt et respectable père a désiré que Matthew et moi soyons unis par des liens sacrés. Son père et le mien ont été amis intimes du temps de sa très gracieuse majesté, la reine Anne. Vous savez comment, après avoir été pendant bien des années perdu pour la bonne compagnie, Matthew est rentré dans le droit chemin après la mort de son père. Il a vécu d'une manière rangée, faisant partie de notre congrégation, et plus d'une fois il a versé des larmes en entendant les discours de notre vénéré et inspiré fondateur. Vous comprendrez donc combien je souffre de la pensée que mes efforts pourront être impuissants sur cette âme. Pas plus tard qu'hier, je me promenais avec lui lorsqu'il s'est arrêté tout à coup et s'est écrié de cette façon impétueuse qu'il a conservée « Écoutez, Becky, voulez-vous voir la maison dans laquelle j'ai passé les plus agréables moments de ma vie ?» Et, comme je ne lui répondais pas, croyant à un simple caprice, il m'a montré une petite maison sale et noire avec des fenêtres en saillie et un haut pignon. « La voici, Becky, » s'est-il écrié. Numéro 7, John Street, Clerkenwell. Une pauvre petite boîte qui n'a que 4 murs, un chenil en ruine avec un escalier où vous vous briseriez le cou si vous ne le connaissiez pas, et à une demi-journée de distance des beaux quartiers de la ville. Cette maison a été pour moi un paradis, et sa vue, bien qu'il y ait plus de 18 ans que je n'y ai mis les pieds, m'amène encore des larmes aux yeux. Puis il se mit à marcher si vite que je pouvais à peine le suivre, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à Smithfield. Alors, il commença à me parler des choses curieuses qu'il avait vues à la foire Saint-Barthélemy, et il voulut me montrer l'endroit où était établie la baraque d'un nommé Fielding, qui a acquis depuis une infâme réputation comme auteur de mauvais romans, moins ennuyeux qu'immoraux. Après quoi, il me parla de Fawke, le sorcier qui avait fait une grande fortune, d'un pauvre homme nommé Taddy Dobb, qui était fabricant de pain d'épices et d'autres choses semblables. Mais il ne put rien dire au sujet des premières prédications de notre vénéré fondateur, ce qui m'eut beaucoup plus intéressé que ses bavardages à propos de bouffons et de faiseurs de tours, de marchands de pain d'épices et de saltimbanques. Lorsque nous eûmes fait le tour de la place, il était temps de prendre une voiture pour regagner notre demeure. Lorsque nous y sommes arrivés, son accès de mélancolie l'avait repris, et il est demeuré absorbé toute la soirée, bien que je lui ai lu à haute voix les sermons imprimés d'un membre distingué de notre communauté. Cela vous montre combien il est difficile pour ces enfants de Satan de s'arracher de ses griffes, puisque le faible cœur de mon mari, arrivé à l'âge de 53 ans, aspire encore après des fêtes impures et des jardins de plaisir illuminés avec des verres de couleur. Je termine, car je suis à bout de papier, et il est temps que je m'aperçoive que vous devez être également à bout de patience. Mes compliments à Mrs. Goodge. Il ne me reste que la place nécessaire pour vous assurer que les plaisirs de cette ville folle et vaste n'ont pas le pouvoir d'enlever de mon cœur son privilège le plus cher, celui de se dire « Votre humble suivante et servante, Rebecca Haygarth ». Il me sembla voir dans cette lettre comme l'ébauche d'un ancien roman. Pourquoi la vue de cette vieille maison a-t-elle fait pleurer Matthew ? Et pourquoi les souvenirs du Vauxhall et de la foire Saint-Barthélemy lui sont-ils si doux ? Puis cette tristesse lorsque le passé lui revient à l'esprit. Était-ce seulement sa jeunesse passée que regrettait le pauvre Matthew, rangé, converti et wesleyanisé? Ou était-ce quelque souvenir plus doux qui s'associait dans sa pensée à celui des illuminations coloriées du Vauxhall et de la misérable maison de Clerkenwell? Qui pourra sonder le cœur d'un homme mort depuis 100 ans? Je pourrais épuiser un volume de lettres avant de pénétrer le mystère de cet homme. Les deux autres lettres que j'ai choisies ont trait aux dernières semaines de la vie de Matthew. La première, écrite un mois avant sa mort, et la seconde, 15 jours après cet événement. J'y crois voir la trace de quelques mystères domestiques que cet honorable citoyen cachait à sa femme, mais que, dans plusieurs occasions, il avait été presque décidé à lui révéler. Peut-être que si la piété de la dame, laquelle, pour le dire en passant, paraît s'être montrée très sincère et très méritante, eût été un peu moins dogmatique dans son expression, le cœur du pauvre Matthew se fût plus facilement ouvert. J'ai dernièrement été tourmentée au sujet de l'état d'esprit de mon mari, écrivait-elle. Ces accès de mélancolie dont je vous ai déjà informé ont repris. Pendant quelque temps, j'ai cru que cette disposition était le signe des troubles d'une âme qui veut se régénérer. Mais dans le courant du mois dernier, j'ai eu le chagrin de découvrir qu'il fallait attribuer cette sorte de spleen à l'influence du mauvais esprit. Mr. Haygarth se plaît à dire que sa vie touche à sa fin. Cette pensée me paraît venir en droite ligne de l'enfer. Mon mari se porte comme il s'est toujours porté, il le reconnaît lui-même, et un instant après, il s'écrie qu'il va mourir. Dimanche dernier, dans la soirée, nouvel accès. Ses prières étaient faites, il prit soudainement la parole comme il en a coutume. Je voudrais te dire quelque chose, femme, quelque chose qui touche à mon existence vagabonde à Londres. Je m'empressai de lui répondre que je n'avais aucun désir d'entendre parler de ces tristes jours, et qu'il ferait mieux d'écouter respectueusement l'explication des Écritures que Mr. Humphrey Bagot, notre digne pasteur, avait promis de venir nous faire après souper. Nous étions assis dans la chambre bleue. La table était dressée pour le souper, et nous attendions notre ami, un homme de condition modeste, un simple brocanteur, mais dévot et zélé, qui me vend du thé noir, du vrai thé noir, celui de la reine. Après que je l'eus ainsi rembarré, sans mauvaise intention, Mr. Haygarth se mit à soupirer, puis il reprit tout à coup « Lorsque je serai sur mon lit de mort, femme, je te parlerai. N'oublie pas de me le demander. Et si je venais à mourir subitement, tu ferais bien de chercher dans le vieux bureau en bois de rose, où tu trouveras une lettre. Je t'écrirai ce que je ne pourrai te dire. » Avant que j'aie eu le temps de lui répondre, Mr. Bagot est arrivé, et nous nous sommes mis à table. Après le dîner, il nous a lu le 6e chapitre des Heureux, qu'il nous a longuement commenté. Il n'avait pas terminé que Satan s'était complètement emparé de Mr. Haygarth, qui dormait en ronflant bruyamment. L'extrait suivant fait partie d'une lettre écrite après que les lèvres qui n'avaient pas pu parler ont été closes à jamais. « Ah, Mrs. Rebecca, vous n'étiez qu'une humble mortelle, bien que vous ayez pu paraître une lumière des plus éclatantes parmi les sectateurs de Wesley. Car que n'auriez-vous donné alors pour pénétrer le secret du pauvre Matthew ?» Elle écrivait « Quelques jours s'étant écoulés depuis le fatal événement, je me suis rappelé ce que m'avait dit mon mari avant que je quittasse Dewsdale pour aller à des assemblées religieuses à Camberton et aux environs. Je suis revenu seulement 2 semaines avant la mort de mon pauvre Matthew. Je me remis en mémoire ses paroles que, dans mon faible entendement, je considérais comme une aberration d'esprit, mais que je reconnais aujourd'hui avoir été un avertissement divin. Puis je cherchais la lettre laissée dans le bureau en bois de rose. Mais bien que je l'eusse cherchée avec le plus grand soin, cela a été peine perdue, il n'y avait aucune lettre. J'ai pourtant examiné tous les coins, recoins et jusqu'aux crevasses du bureau. Dans un tiroir secret, caché dans un vieux livre de prières tout écorné, j'ai trouvé une boucle de cheveux blonds qui semblait avoir été coupée sur la tête d'un enfant. Ils étaient entourés d'une longue tresse de cheveux noirs, laquelle, en raison de sa longueur, doit nécessairement avoir appartenu à une femme. Je vis aussi le portrait en miniature d'une jeune fille dans un cadre d'or. Je ne souillerai pas ce papier par le récit des soupçons qui me vinrent à l'esprit lorsque je trouvai ces étranges objets, pas plus que je ne veux être assez peu chrétienne pour calomnier un mort. Mon mari a été dans ces derniers jours le plus rangé des hommes et le plus plein d'humilité. Les secrets de sa vie antérieure ne viendront plus maintenant à ma connaissance que du côté du ciel. J'ai serré le livre, le portrait et les cheveux dans mon secrétaire, comptant vous les montrer la première fois que j'aurai la joie de vous entendre. Jusque-là, dans les jours de misère comme dans les jours de bonheur, j'ai la confiance que je continuerai d'être avec la même sincérité votre humble et obligée servante et disciple, Rebecca Haygarth. Là s'arrêtent mes extraits de la correspondance de Mrs. Haygarth. Ils sont intéressants pour moi, comme évoquant l'ombre vague d'une existence éteinte. Mais qu'il puisse jamais valoir la peine d'être produit comme une preuve en justice, c'est une autre affaire. Sans aucun doute, cette miniature, qui a jeté tant de consternation dans l'esprit de la rigide Rebecca, n'est autre que le portrait de Molly, dont les yeux m'ont rappelé ceux de Charlotte. Pendant que je copiais les précieuses épîtres de Mrs. Rebecca, je voyais la chambre bleue de cette soirée du dimanche, les graves époux assis avec un air compassé, l'un en face de l'autre, les magots chinois sur la cheminée, les carreaux hollandais bleus et blancs avec d'originales figures trapues de citoyens flamands à pied et à cheval, deux chandelles éclairant faiblement la table aux longs pieds minces, deux pauvres flammes pâles qui se reflétaient lugubrement sur les noirs panneaux polis de la boiserie, la grande Bible ouverte sur une table voisine, le vieux pot à bière en argent, et les couteaux et les fourchettes aux manches en corne de cerf sur la table, attendant le souper. La solennelle horloge faisant entendre dans un coin son tic-tac, et au milieu de tout cela, Matthew se lamentant au souvenir de sa jeunesse passée. Je suis devenu étrangement romanesque depuis que je suis tombé amoureux de Charlotte. Il fut un temps où je n'aurais ressenti qu'un mépris moqueur pour les lamentations du pauvre Matthew. Mais maintenant, j'éprouve pour lui une sorte de tendresse triste, et je prends plus d'intérêt à sa vie terre à terre, à ce portrait, à ses deux boucles de cheveux, qu'au plus émouvant roman qu'ait jamais créé l'imagination humaine. On a bien raison de dire que la vérité est plus invraisemblable que la fiction. Ne peut-on avec autant de justesse dire que la vérité a pour toucher le cœur humain une puissance supérieure aux plus sublimes créations d'un Shakespeare ou d'un Eschyle?